Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
François de Closet, toujours plus. Toujours plus, essai polémique de François de Closet présente une critique sévère de la société française et de ce que l'auteur nomme le néo-corporatisme. L'ouvrage est paru en 1982, soit un an après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Extrait du chapitre 1, l'inégalité française. Tare de notre société, source de tous nos maux, l'inégalité française est si naturellement excessive que, de 54 millions de Français, elle fait 54 millions de défavorisés. Les hommes politiques se doivent d'en souhaiter la réduction. Pour avoir manqué à cette obligation, la droite perdit les élections en 1981. Pour avoir promis d'en venir à bout, la gauche fut portée au pouvoir. Bref, la revendication d'égalité est devenue institutionnelle, comme dit Jean Fourastier. Touchante unanimité. L'évidence s'impose, les uns sont trop riches, les autres trop pauvres. La solution coule de source. Il faut prendre au premier pour donner au second. Cela crève les yeux. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Je me méfie toujours de ces éblouissantes clartés qui obscurcissent la vision. Quand une idée se prête d'aussi bonne grâce au discours, aux dénonciations et aux slogans, lorsqu'elle offre si opportunément un bouc émissaire réconciliateur, il y a gros à parier que l'aveuglement collectif a transformé l'erreur la plus communément admise en vérité première. J'ai, comme tant d'autres, dénoncer le trop inégal partage de l'argent. Je ne vais donc pas condamner aujourd'hui ce que je prônais hier. Le pouvoir socialiste ne peut être qu'approuvé et soutenu dans sa volonté de réduire l'écart entre les mieux nantis et les plus démunis des Français. Nul équivoque sur ce point. Mais en un domaine aussi délicat, ni les bonnes intentions ni les fermes résolutions ne suffisent à garantir le résultat. La guérison de l'inégalopathie française suppose un diagnostic correct débouchant sur un traitement approprié. Tel ne me paraît pas être le cas aujourd'hui. Je crains que des remèdes inadéquats, appliqués à contresens et à contretemps, ne déplace le mal sans le faire disparaître et ne dégrade la santé au lieu de la restaurer. Au terme du traitement, les privilèges auraient changé de nature et de titulaire, tandis que les Français se retrouveraient plus pauvres pour s'être voulu plus égaux. Du discours sur la solidarité, les Français n'ont encore entendu que la première partie, la redistribution monétaire entre riches et pauvres. Elle les satisfait, mais ils savent au fond d'eux-mêmes qu'elle ne résout en rien les problèmes de l'heure. Ni le gouvernement Barre, ni le gouvernement Mauroy n'ont osé parler de la solidarité face à la crise, celle qui met en cause la France moyenne et ses avantages. Chacun pressent que tôt ou tard, il faudra en venir là, et c'est pourquoi le malaise ressenti avec la majorité libérale est si vite réapparu avec la majorité socialiste. C'est précisément de cela qu'il sera question tout au long de ce livre. Il importe que les Français sachent clairement ce qu'ils devinent confusément en attendant que les faits contraignent leurs gouvernants à renoncer aux actuels faux-fuyants. L'épreuve de vérité s'annonce rude pour une société qui, sous couvert de justice, s'efforce surtout de maintenir la paix avec les plus puissantes corporations. De ce point de vue, le changement n'a encore porté que sur les groupes dominants et non sur le système. C'est cette opération vérité que je voudrais donc tenter ici, et elle risque de ne plaire à personne. Il n'est rien de si hargneux qu'un vrai riche tiré de l'ombre, qu'un faux pauvre dépouillé de ses guenilles ou qu'une corporation reconnue dans ses privilèges. Mais peut-on sérieusement croire qu'on corrigera les inégalités sans fondement si l'on n'en prend pas l'exacte mesure, si l'on ne met pas à nu les mécanismes cachés qui les engendrent et les reproduisent ? En dépit d'une littérature surabondante, ce travail préalable n'a toujours pas été fait. Toutes les dénonciations s'en tiennent à des modèles inexacts qui déforment systématiquement la réalité. À illégalité française, il faut d'abord tordre le cou. Nous verrons alors ce que pourrait être une certaine idée de l'égalité entre les Français. Celle-ci, n'en déplaise à notre devise nationale, n'est pas la référence. La preuve en est que l'égalitarisme est rejeté sous toutes ses formes et que l'inégalité n'est condamnée que dans ses outrances. C'est donc la justice qui doit servir de norme suprême, laquelle admet certains écarts entre les individus. Le tout est de savoir dans quelle mesure et pour quelles raisons certains Français peuvent être plus égaux que d'autres sans attendre et sans attenter à l'équité. Trois questions simples peuvent guider notre démarche. Qui, quoi, pourquoi ? À la première, on répond ordinairement en regroupant les Français soit en fonction de leur richesse, soit par grandes catégories socio-professionnelles, les CSP des statisticiens. On parlera donc de l'écart entre les 10% plus riches et les 10% plus pauvres, ou entre les ouvriers et les cadres moyens. Première déformation de la réalité. Ces catégories sont des fourre-tout qui ne servent qu'à dissimuler la diversité des Français. La réponse au « quoi » ne fait aucun doute. C'est l'argent. Les Français ne se distinguent les uns des autres que par leur compte en banque. Nos statisticiens construisent des échelles de revenus sur lesquelles ils répartissent tantôt les individus, tantôt les ménages, comme des hirondelles sur les fils télégraphiques. À chacun son barreau. Que ceux du bas montent de 3 crans, tandis que ceux du haut descendront de 5, et tout sera dit. L'inégalité française, enfin ramenée sur une seule portée, retrouvera son harmonie. Plus de fausses notes. Quant au pourquoi, on ne s'en soucie guère. Un franc est un franc, peu importe son origine ou son environnement. L'abstraction comptable permet de gommer les différences et d'additionner imperturbablement le bénéfice d'un paysan, le cachet d'un chanteur, les dividendes d'une héritière et le traitement d'un professeur. Cette présentation simple, claire, permet d'appréhender commodément l'inégalité française d'un seul coup d'œil posé sur un graphique. Se fier à de tels documents pour conduire une politique est aussi aberrant qu'explorer l'Afrique en se guidant sur une carte du XVIe siècle. Certes, les quelques indications reportées sont à peu près exactes, mais elles sont si partielles qu'elles masquent l'essentiel. Par opposition à ces statistiques monétaires, quelle est donc la véritable inégalité qui sépare les Français ? Sa première caractéristique est de n'être pas seulement financière. Oh, l'argent est important et je n'ai garde de l'oublier seulement. Le reste ne l'est pas moins et il serait tout aussi grave de l'omettre. Mais autant la comptabilité est simple de par son unité de compte commune, autant l'inventaire du bric-à-brac de l'inégalité défie toute classification. On y trouve pêle-mêle la rente de situation, les prix garantis, la sécurité de l'emploi, l'âge de la retraite, les horaires et les congés, la protection syndicale, la fermeture sur elle-même de la profession, le restaurant d'entreprise, les régimes fiscaux, les conditions de travail, les prêts bonifiés, les assurances maladie, les retraites complémentaires, les services sociaux, l'avancement à l'ancienneté, les possibilités de formation et de promotion, la considération sociale, l'importance de la pension. C'est également en négatif le bruit, la crasse, la puanteur, le danger, la tension, la fatigue, la compétition, le mépris, la peur du licenciement, la crainte de la faillite, l'incertitude des revenus, l'absence de conventions collectives, le travail à la chaîne, de nuit, au rendement, par équipe de 3-8, la discipline de l'usine, la pression de la concurrence, la vie itinérante avec son véhicule, le train, l'avion, camion, bateau, la certitude de ne pas trouver un emploi fixe, la perspective de faire jusqu'à 60 ans, sans promotion, le même travail. L'argent s'ajoute à tout cela de façon indissociable, mais il est essentiellement éphémère, alors que ses biens sont généralement durables. La remise en question des situations monétaires par le mécanisme de la redistribution prouve bien qu'elles ne sont jamais acquises. Rien de tel avec les facteurs non monétaires. Ils sont frappés du sceau de l'éternité, droits acquis. Qui oserait en retirer à certains pour en donner à d'autres, ainsi qu'on fait pour l'argent ? Par les temps qui courent, avec la crise qui menace, le fric n'est plus sûr. Seul le hors-fric conserve toute sa valeur.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.